La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Elisabeth Assayag.
Donner des nouvelles de la famille aux grands-parents avec des photos, c'est possible avec une appli Elisabeth, ça s'appelle Parle à Papy en un seul mot. C'est une solution pour rapprocher toutes les générations.
Oui, Parle à Papy, c'est une solution imaginée par des étudiants d'HEC. Et son objectif, c'est de rapprocher les générations. Comment ? Eh bien, en permettant aux familles d'envoyer des cartes postales depuis leur smartphone directement dans la boîte aux lettres des grands-parents. Vous connaissez peut-être là autour de la table et nos auditeurs la messagerie WhatsApp.
Oui, bien sûr.
Vous savez, ces échanges qui ont lieu en temps réel, hein, où parfois plusieurs personnes font partie d'un même groupe. On a tous, enfin, pour certains d'entre nous, le groupe famille, le groupe cousin, le groupe... Bref, eh bien, Parle à Papy récupère les photos du groupe de la famille avec une légende et envoie directement la carte postale aux grands-parents. Ça peut fonctionner aussi avec d'autres messageries, hein, avec Facebook ou Messenger. Bonjour Pierre-Hugues Moreau.
Bonjour, merci de m'accueillir ici.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Parle à Papy. Donc pour 5,90€, vous nous donnez par mois, vous nous donnez la possibilité d'envoyer 4 cartes postales à nos grands-parents.
Tout à fait.
Comment
donc, Parle à Papy. Donc, concrètement, comme vous l'avez dit, ça part d'un groupe WhatsApp familial qui va être dédié à envoyer des nouvelles à un grand-père, à une grand-mère, à un proche à qui ça pourrait faire plaisir. Et donc, toutes ces photos sont récupérées à la fin du mois avec la petite légende, donc le petit message qui vient juste en dessous. On met ça sous forme de petite carte postale avec la photo et le message en dessous. Et à la fin du mois, ça arrive chez les grands-parents dans une petite enveloppe rouge.
On les a avec nous oui, sur europe1.fr. Elles sont très belles.
C'est très beau, c'est matière carte postale, sauf que c'est la photo avec la petite légende. Ça vous est venu comment, cette idée ? Vous vouliez envoyer une carte postale à vos grands-parents ?
Bah, tout à fait. En fait, Parle à Papy, avec mon associé Antoine, on l'a lancé il y a deux ans déjà.
Ça passe, hein.
Ouais, deux ans. On l'a créé en fait en tant que petits-enfants pour nos grands-parents. Antoine était au Mexique pendant 6 mois, il vadrouillait au Mexique. Moi, j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, communiquer avec ses amis, sa famille, c'est assez facile, en fait, à distance, grâce aux réseaux sociaux, WhatsApp notamment. Mais nos grands-mères, donc Mamie Zette pour Antoine en France à Annonay, Mamie Line pour moi en Haute-Marne, bah, communiquer avec elles, c'était beaucoup plus compliqué. Donc à l'origine, l'idée est venue de là. Et on s'est interrogé sur le fait de est-ce que ce serait intéressant de lancer une entreprise sur ce sujet. On a creusé et 2 ans après, on est toujours là et c'est parti quoi.
5,90€ par mois, c'est le premier prix. Il y a d'autres tarifs ?
Alors on a c'est sous forme d'abonnement. Soit on choisit l'abonnement mensuel, on paye par mois et donc c'est comme un abonnement de portable, on se désabonne quand on veut et c'est terminé. Ou alors on prend l'abonnement annuel, donc 4 photos par mois à partir de 69€ par an. Et donc voilà, à l'année c'est un peu moins cher. Au mois, c'est un petit peu plus cher, mais sans engagement.
Ça va, vous avez beaucoup de clients ?
Alors, aujourd'hui, donc avec la période de Noël qui vient de passer, qui était une bonne occasion pour faire des cadeaux, notamment aux grands-parents, on a dépassé les 1000 familles clientes. Donc, on a 1000 destinataires qui reçoivent leur petite enveloppe rouge à la fin du mois, remplie de nouvelles de la famille de tout le mois passé.
Sandra Legrand, notre coach.
Moi, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, pourquoi que les grands-parents ? Moi, je ferais aussi pour les parents, pour tout le monde, parce que je crois que ça fait très plaisir de recevoir une carte postale, en plus avec des photos de la famille. Donc, ne vous limitez pas aux grands-parents. Je pense que moi, je suis maman et je reçois plus de cartes postales depuis longtemps, mais ça me ferait plaisir. Et puis, pour 5,90€, vous avez une carte postale dans le mois ou vous en avez plusieurs ?
Alors, quand on va sur le site Parle à Papy, on a le choix entre un différent nombre de photos. Donc, 4 photos par mois, 10 photos par mois ou 20 photos par mois. 4 photos, c'est 5,90€. 10 photos, c'est 9,90€. Et 20 photos, c'est 14,90€.
Top.
Voilà.
Vous retravaillez les photos ou ce sont les photos parce qu'elles sont très belles. Hein. Moi, je suis incapable de faire d'aussi belles photos avec mon smartphone. Donc, je me posais tout simplement la question.
Alors, les photos sont très peu retravaillées. Concrètement, on a des photos qui vont arriver en format portrait ou paysage. Et donc, en fait, en fonction, on va recadrer automatiquement au bon format. Et c'est tout. C'est la seule modification qu'on fait, juste un recadrage, plus le petit message en dessous.
Et vous en faites quoi des données, par exemple vous avez accès à la conversation du groupe WhatsApp, seulement les photos, c'est nous qui choisissons la légende. Comment ça marche en termes de confidentialité ?
Alors concrètement, comment ça fonctionne au niveau du service, c'est vous envoyez une photo avec un petit message juste en dessous.
C'est nous qui décidons de la légende.
C'est vous qui décidez de la légende. Derrière, en termes de confidentialité, nous, donc on a accès à ces photos, à ces petits messages. On les récupère automatiquement, on les met en forme, on les envoie. On les conserve 2 mois dans nos bases de données au cas où il y a un problème d'envoi, qu'il faille les renvoyer. Mais ensuite, ça, c'est supprimer nos bases de données. Et voilà.
Sandra ?
peut-être une idée aussi, aller sur le monde professionnel, le B2B, parce que finalement, envoyer un petit message sympa en fin d'année, début d'année, avec la photo, on fait tous des photos de nos équipes.
Ça peut être une nouvelle carte de vœux.
Qu'on envoie à travers les emails, mais ça peut être une carte de vœux sympa.
Complètement. Au niveau, on a tout plein de possibilités au niveau B2B, et comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau de, donc pas forcément uniquement les grands-parents, mais on peut envoyer, aujourd'hui ça s'appelle Parle à Papy, on peut l'envoyer à n'importe qui. On a déjà pas mal de familles clientes qui en fait envoient à d'autres personnes que des grands-parents, et même des grands-parents qui sont parfois très connectés, qui vont remercier leur famille par WhatsApp, en fait ça fait plaisir aussi. Et puis on prépare un lancement en ce moment, on est en test de lancement de la solution équivalente qui s'appelle With Love à l'international.
Pour les demandes en mariage.
Non, la même chose, mais pour tout le monde.
C'est notre côté
romantique.
Parle à Papy, en un seul mot, je le précise. Merci c'est beaucoup ça. D'être venu nous présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1. Il
merci
est 57.
Europe 1. Moi, je voulais.
Et vous restez avec nous, bien sûr. On vous emmène en Corse, île de tradition, île aussi d'innovation, et on va vous le prouver dans La France bouge. À tout de suite.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant dans La France bouge, et aujourd'hui vous l'ignorez peut-être, mais c'est la journée mondiale de la Corse, et à cette occasion on a choisi de vous emmener là-bas, pas pour revisiter les traditions, mais pour vous montrer que sur l'île aussi, il y a des hommes et des femmes qui imaginent le monde de demain et qui innovent. Bonjour Florent Costantini.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes ophtalmologue et vous êtes le fondateur de Glasspop, alors ça s'écrit G-L-A-2-S-P-O-P, tout attaché. Vous avez créé une cabine qui est destiné à contrôler la vue. Racontez-moi peut-être d'abord comment est née l'idée. C'est un projet de famille.
Exactement. Nous sommes deux frères ophtalmologistes et vous savez, comme souvent, les idées, elles viennent en général d'un problème. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, on va écouter les gens, on a écouté les patients et ils nous disaient, c'est terrible pour avoir un rendez-vous d'ophtalmo, c'est tellement compliqué, j'ai juste besoin d'un rendez-vous de consultation lunettes, ma vue a baissé, je n'y arrive pas, comment je fais ? On s'est dit avec mon frère, écoute, il doit y avoir quelque chose à faire, la technologie évolue. On est deux amoureux de tech, donc qu'est-ce qu'on a fait ? On est à l'hôpital d'Ajaccio, on a embarqué les machines le week-end, on les a démontées et on a commencé à regarder comment ça marchait.
Et vous vous êtes testés l'un l'autre ?
Exactement, on s'est testés l'un l'autre et on s'est dit, il y a des étapes clés dans le process, on va les automatiser et on va mettre un algorithme dessus, combiner tout ça dans une cabine qui est une cabine métallique qui ressemble beaucoup à une cabine dans laquelle vous prenez des petites photos d'identité que vous connaissez, mais qui sert de solution, de connexion entre un ophtalmo et un patient pour pouvoir faire des ordonnances de lunettes.
Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes dans la région d'Alat. C'est, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas la Corse, dans la grande périphérie d'Ajaccio.
Exactement.
Et la Corse est considérée comme un désert médical.
Exactement. Parce que quand on parle de désert médical, il faut parler de délai de consultation, mais il faut aussi parler de temps de déplacement. Quelquefois en Corse, et ça, c'est vraiment une problématique insulaire, vous pouvez être à 30 km, mais c'est très compliqué.
Et être à 2h30 de route.
Exactement.
Donc, une fois que vous avez démonté cette machine, que vous l'avez remontée, que vous avez fait des tests, qu'est-ce qui s'est passé ?
Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. On a été aidé par BPI France. On a réussi à convaincre des gens. Il y a eu deux délais, je dirais, dans le process. On a eu une bourse French Tech qui nous a permis de passer de l'idée à un prototype. Et après, on a eu...
Prototype en bois, hein, au début.
Exactement, et construit dans le cave de la maison familiale, exactement à Alat. Et du prototype à la vie réelle, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment avec le plan investissement à venir de BPI France.
Donc, ça va fonctionner comment, cette cabine ? On va s'asseoir, alors elle va être positionnée peut-être dans des pharmacies, peut-être dans des maisons de soins. Je crois que la première est partie, ça y est, en Corse ?
Exactement, la première a vaincu la tempête Fabien, on est très contents. elle est en Corse, saine et sauve. On va les retrouver dans des pharmacies, dans des maisons de santé, là où les populations vivent, au plus près des gens. C'est ça qu'on veut faire, c'est construire une solution qui permet à nous, ophtalmologistes, d'aller un peu plus loin que nos cabinets, pour des petits détails, parce que ce qui est important, c'est de comprendre que cette cabine, elle sert à mesurer la vision, c'est-à-dire à vous faire une ordonnance de lunettes. Mais dans le millefeuille que représente une consultation d'ophtalmologie, on extrait ça, on la met dans une cabine. Vous avez toujours besoin de continuer à avoir votre ophtalmologiste et avoir un parcours de soins derrière pour le fond d'œil, l'examen des annexes, la pression intraoculaire et le dépistage du reste des pathologies ophtalmologiques.
Et on la voit, cette cabine, évidemment, sur europe1.fr si vous nous suivez en ligne. On s'assied dans cette cabine, on va avoir finalement le même examen que si on était chez vous.
Exactement, oui.
Et après, qu'est-ce qui se passe ? Les résultats sont transmis ?
Oui, c'est très simple. Vous rentrez dans la cabine, vous faites votre test, ça dure à peu près 8 minutes. Vous avez trois machines, mesure des lunettes, mesure de votre œil et, vous savez, je vois mieux avec ça, je vois pas mieux avec ça, vous testez les verres. Deuxièmement, les données sont envoyées sur un serveur protégé, l'ophtalmologiste va revoir les données, valider, émettre l'ordonnance, et troisièmement, vous recevez un lien en disant le dossier est traité, voilà votre ordonnance de lunettes ou vous n'en avez pas besoin, et voilà un rendez-vous d'aval chez votre ophtalmologiste pour le suivi, je dirais, classique des pathologies ophtalmologiques tous les 2 ans, tous les 3 ans.
Que dit notre coach, Sandra Legrand ?
Alors, moi, j'aime toujours un peu comprendre les modèles économiques. Donc, en fait, cette machine, vous allez la vendre, vous allez la mettre en dépôt, comme font les distributeurs automatiques de boissons que je connais bien. Comment ça va se passer ? Un pharmacien qui dit, moi, je veux la machine, vous lui...
Exactement. Donc, on les exploite en propre, ces machines.
D'accord.
Donc, on va les placer dans des pharmacies, on va payer un loyer pour ça. Et nous, c'est du pay-per-use, c'est-à-dire qu'on va, le patient va payer, en fait, sa consultation. Et on va se rémunérer là-dessus.
Et combien il paye ?
Alors, ça, on est en train de discuter, il y a des enjeux de TVA autour. On va être aux alentours de 26-27 euros, à peu près.
D'accord. 26-27 euros, je vois ma vue, enfin, je révise ma vue.
Vous avez votre ordonnance de lunettes.
Et j'ai mon ordonnance pour après changer.
Ou mon rendez-vous en direct avec un spécialiste.
Et après, voilà. Et après en aval, obtenir votre rendez-vous chez un ophtalmologiste pour le contrôle classique des pathologies.
Voilà. Que dit la profession de cette invention-là ? Comment est-ce que vous êtes reçu aujourd'hui ?
Bah, écoutez, alors moi je suis élu au syndicat national des ophtalmologistes, je connais bien un peu la profession et je connais bien les problématiques. Vous savez, aujourd'hui on se dit, on n'est pas assez, on sent que la rue crie. J'ai entendu hier votre émission, c'était très bien sur les nouveaux métiers de l'optique et ça bouge beaucoup. Le problème c'est les médecins. Il faut qu'on développe des nouveaux moyens aujourd'hui d'être plus accessibles pour les gens. C'est trop compliqué pour la population active de trouver un médecin. Ça fait partie des outils qui nous connecte entre patients et médecins pour nous rapprocher un petit peu de la vie de tous les jours.
On le voit avec vous et on va le voir tout au long de cette émission. Il y a énormément d'innovations, y compris en Corse. Elisabeth, on a une idée du nombre d'entreprises présentes en Corse qui peuvent servir justement de vivier ?
Le nombre d'entreprises qui ont déjà leur siège social dans la région est de 27 000 environ. Il existe également dans la région, en plus de ces entreprises, près de 3 800 établissements qui peuvent être des établissements d'entreprises, hein, pas forcément le siège social. Et rien qu'en 2018, 4383 entreprises ont été créées en Corse, donc ça bouge là aussi, il faut le dire. Et parmi les entreprises qui ont leur siège social en Corse, 12 203 entreprises font du transport ou des services. Il s'agit d'entreprises de transport ou de services.
Moi, je voudrais savoir, une fois que la cabine sera installée là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez en créer d'autres, les faire fabriquer ? Vous
Exactement.
Allez les fabriquer où ? En Corse ?
Exactement.
Vous avez fait pas mal de recherche et développement là-bas, mais vous êtes aussi ici, en
Exactement.
Partie, avec Station F et The Family ?
Exactement. Alors, je pense qu'une bonne idée, c'est très difficile de comprendre aujourd'hui ce que c'est une start-up. Je crois que une définition de base, c'est d'être ambitieux. Et nous, on est très ambitieux. Pour l'ambition, merci, il faut des leviers de croissance. Pour attirer des leviers de croissance, il faut de l'attraction. Donc nous, on a réussi à aller en fonds propres au marché. On va être lancé dans le premier trimestre. On veut des chiffres de traction et on veut céder deux The Family, qui est un portefeuille de start-up européen que je pense que vous connaissez bien.
Bien sûr.
Pour aller au bon moment, lever la bonne somme d'argent et pour accélérer parce que notre marché à nous, il est vraiment mondial.
Sandra,
est-ce que vous avez besoin d'un agrément, d'un label ou on va dire d'une autorisation médicale ?
Alors, c'est un dispositif médical. Donc, si vous voulez, on a deux types de certifications. Une certification sur le logiciel, qui sont des normes européennes CE. Donc ça, on est en train de la passer. C'est de l'auto-certification, parce que c'est une histoire de niveau de risque et c'est le plus faible pour ce qu'on fait. Et deuxièmement, c'est la certification sécurité hardware, je dirais, de la machine. Et ça, c'est en train d'être passé. C'est une histoire de quelques semaines pour nous.
C'est le même principe que la téléconsultation, finalement, à laquelle on assiste aujourd'hui et qui est en plein développement.
Exactement. Un détail près qui n'en est pas un, c'est qu'on a un caractère asynchrone de la validation des résultats. C'est-à-dire que moi, en tant qu'ophtalmologiste, je peux augmenter le nombre de patients que je vois parce que dans ma journée, je fais ma chirurgie, je fais mes consultations et le soir, je vois mes patients qui ont fait leur bilan visuel, je valide les données et je les reconvoque à bon escient.
Combien de communes, combien de départements vous ont approché aujourd'hui et vous ont dit on aimerait bien que tu mettes à notre disposition cette cabine chez nous parce qu'on est un village reculé, parce qu'on est une campagne.
Alors, beaucoup en Corse et alors un petit peu plus loin parce qu'on a un interlocuteur maintenant qui est la Banque des Territoires, la Caisse des Dépôts. Et vous savez, il y a le grand débat qui a accouché de quelque chose qui s'appelle les Maisons France Service. Et il y a un enjeu de probablement de santé à faire, quelque chose à faire là-dedans. Et je pense que ça va être très intéressant avec la Banque des Territoires et la Mutuelle Sociale Agricole peut-être, de diffuser ça, un peu cette technologie.
Qu'on connaît bien aussi ici, la Banque des Territoires, puisqu'ils viennent dans La France Bouge jouer le rôle des investisseurs. On reste ensemble et on continue notre tour de Corse aujourd'hui.
Il est 13h18. Europe 1.
Et vous voyez probablement en ce moment les images de l'Australie en feu. Si on pouvait aider les pompiers à agir, c'est justement ce que propose Midgard. A tout de suite. Cet après-midi dans La France Bouge, à l'occasion de la Journée mondiale de la Corse, on parle des innovations corse. Vous en connaissez peut-être, parlez-nous-en, vous nous écoutez en Corse, et bien dites-le nous sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Et nous avons tous été frappés par les images ces derniers jours des forêts australiennes en feu. C'est une situation que, à plus petite échelle, la Corse connaît bien, car ces deux départements sont régulièrement frappés par les incendies. Alors est née l'idée de Midgard, M-I-D-G-A-R-D. Bonjour Anne-Sophie Cadre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé cette entreprise à Ajaccio qui fait du drone finalement l'outil d'aide à la prise de décision pour les pompiers. Vous êtes incubé chez Initia, mais vous avez fait, vous, je crois, l'École nationale de l'aviation civile. C'est comme ça que tout démarre.
Exactement. Donc j'ai commencé en école d'ingénieur à l'école d'aviation à l'ENAC. C'était vraiment très intéressant et je me suis orientée vers les technologies drones parce que vraiment on peut faire énormément de choses avec et
ça c'est va plus vite, c'est plus rapide.
Ça, c'est une grande expansion. Et j'ai rapidement réalisé que finalement le drone n'était qu'un capteur qui servait à rassembler des données et que le plus important dans cette technologie c'est de pouvoir analyser et exploiter ces données. C'est pour ça que je me suis orientée vers l'intelligence artificielle et le big data à travers un master spécialisé à Télécom Paris. Ça m'a permis, quand je suis arrivée en Corse, de réfléchir à une solution, à un problème que j'ai remarqué en discutant avec les pompiers à Ajaccio, principalement avec mon associé.
Oui. Qui est pompier.
Qui est pompier, voilà, c'est ça, qui est pompier à la caserne d'Ajaccio. Que les pompiers étaient vraiment aveugles face aux dangers, principalement du coup, durant les feux de forêt, où ils se retrouvent avec les fronts de flammes et seulement un petit appel de quelqu'un qui a prévenu de cette situation d'urgence. Maintenant, il y a 40% des casernes qui utilisent des drones déjà pour essayer d'avoir une meilleure compréhension de la situation, une meilleure visualisation.
Donc comment ça marche? Si je vous suis bien, les pompiers aujourd'hui, quand ils veulent avoir une idée de l'étendue du sinistre, ils sont obligés de faire le tour à pied, si j'ose dire, sauf s'ils sont d'ores et déjà équipés de drones. Mais vous dites, ce serait beaucoup plus rapide et donc beaucoup plus efficace de regarder, de faire une photographie aérienne et de savoir exactement où ça a démarré, quels sont les endroits d'éventuelles reprises potentielles du feu. Ce genre d'informations, vous pouvez les capter directement avec les drones.
Exactement. Grâce aux images drones, on va pouvoir créer de la cartographie, la remettre dans un contexte géospatial qui permettra aux pompiers de savoir ce qui se passe dans la situation, l'étendue du feu, comment le feu va se propager grâce à des algorithmes de propagation du feu, et donc d'avoir une bien meilleure compréhension de la situation et de pouvoir la gérer grâce à des données et des faits réels.
Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une appli qui est en cours de construction, c'est ça, et qui va être disponible pour qui? Pour les pompiers, pour nous, pour vous et moi?
Donc on s'adresse aux pompiers, aux casernes de pompiers, qui vont pouvoir utiliser l'application pour la connecter avec leur drone, recevoir automatiquement les images
en temps réel.
En temps réel et du coup pouvoir construire des cartes à partir de ces images, une orthophotographie, et à partir de cette orthophotographie, faire des analyses sur les données pour savoir où est le front de flamme, comment va se propager le feu et à quelle vitesse.
Donc on pourra envoyer directement au bon endroit, si j'ose dire, les moyens nécessaires. On saura qu'il faut aller plutôt à l'ouest ou plutôt à l'est pour contenir les flammes, par exemple.
Voilà, on saura où va se propager le feu et comment. Et du coup, on aura une meilleure compréhension et une meilleure... c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui permettra d'adapter le déploiement des forces de sécurité.
Votre appli, elle sera en test très bientôt, je crois, au mois de mars, c'est ça?
Au mois de mars, on a les 3 mois de développement là, pour finaliser l'application. Et ensuite, on va la tester auprès de casernes pilotes.
Qui sont
Pour l'instant, on est encore en cours de discussion, donc je ne vais pas dire de nom, mais plusieurs casernes, principalement en Corse. Avec qui on discute pour faire ces premiers tests qui permettra à nous d'avoir des tests opérationnels utilisateurs, voir comment les pompiers préfèrent utiliser l'application et pouvoir construire un maximum d'informations là-dessus et leur donner beaucoup d'idées de comment gérer ce genre de situation à partir des données drones.
Sandra Legrand, notre coach.
Alors oui, c'est un vrai sujet. Du coup, pour bien comprendre, les drones, ils les ont déjà, les pompiers. Enfin, 40%, j'imagine que les 60% autres, c'est des questions de financement. Parce que j'allais dire, sinon tout le monde devrait s'équiper de drones. C'est quand même la première brique. Mais vous, vous amenez ce partage de données, cette analyse de données. Et en combien de temps? Parce que quand il y a le feu, il faut aller très vite. En combien de temps vous êtes capable d'analyser la donnée avec l'appli pour pouvoir tout de suite réagir? Est-ce que c'est une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes?
Alors, pour l'instant, juste après le vol, on sera capable d'avoir de la cartographie. Donc, vraiment une image de toute la zone qui sera replacée sous une carte IGN ou Google Maps.
Donc, la carte en temps réel.
Juste après le vol de drone. Donc, presque en temps réel. Ensuite, on est en train de construire des modules qui feront de l'analyse automatique sur ces images-là. On n'est pas encore sûr de combien de temps, mais on essaye de viser de 5 à 10 minutes. Pour le traitement de ces données et donc pour avoir vraiment des propagations du feu et en général des informations sur comment gérer cette situation.
Oui, parce que sur Notre-Dame, ils avaient utilisé un drone et il y avait quelqu'un qui faisait des dessins en même temps pour pouvoir comprendre le circuit du feu.
Cette application, c'est vraiment la base qui permettra de faire ces dessins, de donner ces informations, de déployer les forces et de partager ces informations sur le cloud entre les différents acteurs qui gère cette situation.
Vous avez d'ores et déjà une idée de combien de temps ça peut faire gagner, par exemple, sur un incendie à des pompiers? Vous avez pu mesurer ces choses-là ou pas du tout?
C'est un petit peu difficile à mesurer parce que chaque incendie est vraiment différent et particulier. Après, comme vous le disiez avant, les pompiers ont parfois besoin de faire le tour du feu à pied ou en véhicule quand le tour du feu est accessible.
Bien sûr.
Parce que parfois, quand c'est vraiment en pleine forêt, c'est vraiment complexe. Donc ça leur fait gagner du temps à travers ça, mais aussi en plus des informations, et c'est aussi plus sécuritaire pour les gens qui doivent s'engouffrer dans la forêt pour aller voir où en est le feu.
Elisabeth, on est en train de parler de ces innovations qui ont démarré, d'autres qui sont en cours de lancement. Et vous avez trouvé des entrepreneurs corses qui ont inventé le nettoyage par le froid.
Oui, il y a des tas d'innovations hein, quand on se penche un peu sur ce qui se passe en Corse. Ça bouge énormément. Là, ce sont deux amis ajacciens qui sont à l'origine de la première société de production de glace carbonique sur l'île. L'entreprise s'appelle CO2A. Elle est portée par un procédé jusque-là inédit en Corse, le nettoyage par cryogénie. Ça s'apparente au sablage, mais dans cette technique, le sable est remplacé par de la glace carbonique. Cette glace, elle est projetée sur la zone à nettoyer par un pistolet de tir à forte pression. Une température qui avoisine les moins 80 degrés. Donc, c'est une technique qui peut être utilisée pour des voitures, des bateaux, notamment des trains ou encore des avions. Toutes les formes de résidus difficiles à enlever. CO2A.
CO2A. Et on va continuer à faire ce tour de Corse pour vous montrer que c'est une île de tradition et d'innovation.
Il est 13h27.
Europe 1.
Vous voulez peut-être sortir entre amis, mais vous ne savez pas comment vous décider sur le lieu. Et si on vous donnait la possibilité de connaître exactement la fréquentation, l'ambiance à l'instant T, c'est possible. Vous allez voir comment. À tout de suite.
Aux côtés des chefs d'entreprise et de leurs équipes, AXA Prévention vous présente La France Bouge. Avec un dossier consacré aux innovations corses cet après-midi, on attend vos réactions, vos messages sur Twitter, hashtag Europe 1. Vous pouvez également nous téléphoner au 3921 Raphaël.
On a tous déjà hésité, hein, c'est vrai, devant la porte d'un restaurant qu'on adore en voyant qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ou au contraire, on a rebroussé chemin parce qu'on voulait être tranquille et que l'endroit où l'on aime se relaxer est bondé ce soir-là. Et si demain, vous pouviez savoir, avant de vous déplacer, exactement ce qui se passe? Bonjour Patrice Bidot.
Bonjour Raphaël, bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Move Into the City. Vous avez longtemps travaillé, vous, dans les logiciels, mais à un moment donné de votre carrière, vous en avez eu marre. Vous avez eu envie d'autre chose et vous avez eu l'idée de créer une appli qui nous géolocalise et qui nous propose des lieux en proximité. Racontez-moi comment c'est né.
Oui, tout à fait. L'idée, enfin, c'est après l'approche des 50 ans, une envie de changement, une envie de partir sur un projet novateur. Et avec deux amis, l'idée est née à Calvi. On était attablés autour d'un bar et puis on s'est dit au fil des discussions, qu'est-ce qu'on fait ce soir et on va où? Et on a commencé à se raconter nos petites anecdotes les uns les autres de Paris, de Montpellier, de Calvi, ou peu importe où. On ne sait pas vraiment où aller. On connaît un endroit, on décide d'y aller. Malheureusement, ce n'est pas la bonne soirée, c'est fermé, il n'y a pas d'ambiance. Alors qu'à côté de d'où on se trouve, on peut avoir un petit endroit beaucoup plus sympathique. Donc de ce constat est née l'idée de développer, comment dirais-je, Move into the City. Donc notre idée, c'était véritablement de créer un réseau social collaboratif, hein, oui, qui permet de découvrir en temps réel, à partir de votre point de géolocalisation, toutes les ambiances des villes. Ça peut être un bar, un restaurant, une péniche, un rooftop, à partir de l'envoi de postes photos et vidéos live, géolocalisés.
Donc ça signifie que les établissements qui se trouvent sur ce réseau social sont forcément connectés avec vous ?
Alors non, ils sont complètement autonomes, puisque effectivement ces postes qui sont réalisés sont diffusés sur deux fils d'actualité. Ce qui est important dans le principe de l'application, c'est qu'on voulait développer une plateforme qui soit une plateforme tout en un. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il existe aujourd'hui un certain nombre d'applications qui vous permettent de dire « tiens, il se passe ça, 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 à telle heure, à tel endroit ». Le problème, c'est qu'effectivement, vous décidez de sortir, donc vous allez sur une telle application. Ensuite, vous voulez inviter des amis, il faut sortir et utiliser un outil de messagerie. Notre objectif, c'était véritablement de créer une plateforme ergonomique tout en un. Donc on a effectivement la possibilité de géolocaliser un endroit, vous avez la possibilité de partager cet endroit avec vos amis, vous pouvez effectivement noter, on fait du rating de soirée, ça c'est aussi novateur.
C'est donc, quoi le rating de soirée ?
Le rating de soirée, c'est qu'on est dans un endroit, on a la possibilité de donner une note. Mais contrairement à ce qu'on peut trouver dans certains types d'applications, vous pouvez avoir des commentaires négatifs, nos posts ne durent que 24 heures. Donc vous avez la note globale, vous avez la note d'une soirée et vous avez un algorithme de données qui vous calcule la note globale sur une période donnée. Donc vous pouvez effectivement aller dans un établissement où la soirée va être moyenne, mais parce que ce n'était pas la bonne journée, il n'y avait pas d'ambiance.
En revanche, le lendemain, ce sera très bien.
Exactement, c'est topissime. Donc voilà, l'intérêt aussi pour les établissements, c'est que les commentaires ne restent pas. Donc il n'y a absolument aucun commentaire négatif. C'est juste une appréciation, je dirais, en temps réel.
En temps réel. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec la donnée ? Elle va où ? Elle appartient à qui, cette donnée qui est échangée sur cette plateforme ?
Cette donnée, elle est disponible 24 heures.
Elle est effacée ensuite ?
Oui, elle est effacée, bien évidemment. Oui, c'est tout à fait. On est tout à fait RGPD compliant. Oui, tout à fait.
Sandra Legrand, notre coach.
Moi, j'essaie de comprendre que vous êtes le Waze des lieux de fête, en fait.
C'est un peu ça, tout à fait.
Qui nourrit d'informations ? J'imagine que c'est le consommateur mettre les notes, qui va prendre les photos, qui va parler de l'ambiance qu'il trouve dans le lieu où il est. Et c'est ça qui nourrit la communauté et les informations.
Les utilisateurs et les établissements, bien évidemment.
Alors, justement, les établissements, est-ce qu'ils ne sont pas un peu jugés partis ? Qui va dire si je suis un établissement, un bar sympa ou...
Non, mais ça, c'est après moyenne. Les utilisateurs. Les établissements vont pouvoir poster de l'information, informer les gens sur leur soirée, poster des photos de live aussi. Ensuite, c'est les utilisateurs qui vont faire leur choix, les utilisateurs qui vont se déplacer dans l'endroit et qui, eux, vont pouvoir noter et inviter leurs amis. Vraiment, le principe de base dans cette application, c'est plutôt, contrairement à ce qu'on peut voir sur des applications, des réseaux sociaux du type Facebook ou Instagram, c'est qu'effectivement, vous faites des posts, vous êtes à 300, 400 kilomètres, vous pouvez créer un sentiment de frustration. Nous, c'est complètement l'inverse.
L'idée, c'est la proximité, c'est local.
Exactement, c'est de la proximité et c'est d'inviter tes amis à venir passer la soirée avec toi.
Alors, vous l'avez testé ?
Oui, tout à fait, on l'a testé.
À Calvi, justement ?
Oui, on a fait un lancement.
Comment ça s'est passé ?
Très bien. L'objectif de lancer cette application à Calvi, c'était justement pour moi d'avoir des métriques. Donc, nous avons eu un peu plus de 3000 téléchargements sur Calvi. Les établissements ont joué le jeu, ont beaucoup posté, et les utilisateurs aussi. Alors, c'est vrai que pendant Calvi, l'été est un lieu très festif, il se passe pas mal de choses. On a plein de petits endroits qui sont fantastiques, mais qui ne sont pas forcément dans le cœur de ville. Donc, l'intérêt d'utiliser notre application, c'est de savoir qu'à 5 km, 10 km, vous pouvez avoir un endroit qui n'est pas forcément en bord de mer, mais où il se passe une ambiance de folie.
Et à contrario, si je cherche un endroit au calme, je peux le trouver aussi.
Tout à fait, bien sûr.
Donc je rentre mes critères.
Comment ?
Je rentre mes critères.
Tout à fait. Vous avez le principe d'une carte géolocalisée sur laquelle vous avez des filtres qui vous permettent de sélectionner un type d'ambiance. Mmh. Un bar, un restaurant, un rooftop, un festival ou des choses beaucoup plus calmes. Et là, ce qui est intéressant aussi, nous avons développé des notions de service plus. Ça, c'est intéressant. Vous êtes dans une grande ville, vous cherchez un service un voiturier. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver. L'établissement qui propose un service de voiturier. L'établissement qui est ouvert 24 heures sur 24. 24. L'établissement qui est ouvert les
bon,
jours
bon,
fériés.
Bon, mais quand est-ce que ça arrive à Paris, cette appli?
Ça y est, c'est déjà là. Ça y est, c'est à Paris déjà.
L'appli est déjà disponible. Ce qui est nos enjeux aujourd'hui, nous, c'est d'agréger des communautés. Donc, on a prévu effectivement un plan de lancement très important là, sur ce premier trimestre 2020. On avait prévu d'activer ce plan fin décembre. Malheureusement, avec le phénomène des grèves et autres, on a décidé de retarder un petit peu ce plan de lancement. Mais tout est prévu. On a sélectionné d'ailleurs, des influenceuses corses qui vont nous aider aussi, dans le lobbying qui va
c'est
être
important.
Fait. Ça, c'est aussi très, très important. C'est vraiment d'agréger des communautés.
L'appli est valable sur iPhone, Android? Parce que moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi sur iPhone. Il y a un nom particulier, parce que Move into the City. Tout attaché?
Oui, tout à fait. Vous avez, c'est disponible, oui, sur les stores Apple, iOS et App Store et Android. C'est gratuit. On pourra peut-être regarder tout à l'heure.
Regarder,
c'est disponible, tout à fait, ça fonctionne sans souci.
Combien d'établissements aujourd'hui
Alors, sur Paris, aujourd'hui, on a déjà à peu près 280 établissements partenaires. Au niveau national, on est à peu près dans l'ordre de 1300. Et on a à peu près 5000 utilisateurs.
Céline, vous avez essayé, ça marche?
Oui, moi je suis sur Android et ça fonctionne. Oui.
Bon, alors on va réessayer. Je vous propose qu'on reste ensemble et qu'on se retrouve pour parler de la Corse et de l'innovation sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend 3921, Twitter, hashtag Europe 1. Venez nous dire si vous connaissez ces innovations. Venez poser aussi vos questions à nos invités. La France bouge en Corse aujourd'hui. À tout de suite.
Dans La France bouge cet après-midi, on parle, Raphaël, des innovations en Corse et on en parle avec vos invités.
Et nous sommes avec Anne-Sophie Cadre, cofondatrice de Midgard, une solution qui, à l'aide d'un drone, permet d'aider justement les pompiers dans la lutte contre les incendies. Florent Costantini, cofondateur de Glasspop, le photomaton visuel, qui mesure la vue et qui permet d'avoir une ordonnance, des lunettes sans aller chez l'ophtalmo. Et Patrice Bidot, cofondateur de Move into the City. Alors, on va préciser, ça s'écrit MOOVINTOTHECY.
Tout attaché.
TY, évidemment, tout attaché. L'appli qui permet de connaître les ambiances en direct dans les restos, les bars et qui est en pleine phase de développement, de lancement. Notre coach, c'est Sandra Legrand, cofondatrice de Yapuka, qui coach les jeunes pour leurs entretiens. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Et on a, je crois, une question de Marc sur Twitter.
Oui, hashtag Europe 1 qui vous demande selon vous, est-il plus compliqué de créer son entreprise en Corse que sur le continent?
Ah, bonne question. Qui a envie de répondre? Qui se lance? Florent?
Je me lance. Vous savez, écoutez, je pense que aujourd'hui, on vit dans un pays extraordinaire parce que les institutions sont vraiment à l'écoute. Je pense que les gens ont compris qu'il y avait un vrai enjeu pour nous, en tant que nation et en tant qu'Europe, à créer des start-up et à créer au-delà de ça des entreprises. Et donc, je crois qu'il y a une volonté politique et il y a une volonté du peuple d'agréger des énergies de bienveillance autour de ça. Et moi, je trouve qu'en région, peut-être qu'il y a un peu moins l'embouteillage que dans des grandes capitales européennes. Et donc, je pense que dans les petites régions, et en l'occurrence en Corse, les gens sont très à l'écoute et le train avance très bien.
Même constat, justement, Anne-Sophie et Patrice?
Oui, je pense qu'effectivement, les directions régionales des BPI, par exemple, sont beaucoup plus disponibles. Peut-être moins de projets à gérer ou à piloter effectivement qu'en région, qu'à Paris.
Qu'à Paris.
Donc ça me semble effectivement beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide.
Mais Anne-Sophie?
Oui, moi je pensais pareil. En principal, au niveau de l'incubateur, qui du coup se consacre vraiment à 100% sur les projets. Et c'est vraiment très agréable.
Oui, alors on n'en a pas parlé des incubateurs. Il y en a en Corse. Oui. On a parlé d'Initia et de peut-être aussi la Corsican Tech, puisqu'elle existe. Il y a plein de projets comme ça qui voient le jour.
Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose. On était il y a peut-être maintenant un mois à un événement à Lisbonne dont je ne me rappelle plus le nom, de start-up européen. Le Web Tech Summit.
Oui.
Et vous savez, c'est marrant parce qu'on peut faire le parallèle avec la Corse. En fait, au Portugal, il y a une économie maintenant qui se développe. Il y a un nombre d'entrepreneurs européens et même au-delà qui créent leur entreprise au Portugal parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous êtes dans la tech, vous n'avez plus les contraintes de l'industrie. Vous avez simplement besoin d'avoir une équipe motivée et une connexion Internet. Avec ça, vous pouvez faire énormément de choses. Et moi, je pense qu'en région, et notamment en région Corse, on peut vraiment faire ça, on peut vraiment attirer des talents. La clé pour ça, c'est qu'il y ait derrière des structures de formation à la hauteur et d'éducation à la hauteur qui pousse un peu tout ça et qui attire des talents.
Sandra ?
Il faut faire une petite campagne pour faire venir les sociétés en Corse. On pourrait établir nos sièges en Corse, par exemple, et être incubé en Corse, ça serait une bonne idée.
Ouais,
justement, on parle des startups. Je crois que vous en avez trouvé, Elisabeth, dans le monde du vélo.
Oui, le Box Bike Sharing de la startup Corse App Bike. C'est une startup qui propose des locations de vélos électriques en Corse. Et cette startup a été élue parmi les 20 innovations de l'année lors de l'Eurobike Show en Allemagne. C'est un show... un rendez-vous important qui met en avant toutes les innovations dans le monde du vélo et de la mobilité. Les personnes qui ont des vélos en Corse fournissent aux hôtels et aux entreprises les vélos, l'entretien et la start-up App Bike expédie dans sa box la station connectée avec une application mobile enrichi pour les voyageurs avec des itinéraires. Des itinéraires, c'est important en Corse pour pouvoir découvrir l'île, pour vivre une expérience de mobilité connectée pendant qu'ils sont en Corse.
App Bike, A-P-E, Bike, B-I-K-E, évidemment.
Bike, avec un E mais entre le P et le B. Oui.
Vous avez une question, Céline,
je crois. Oui, j'avais une question pour Anne-Sophie, dont la solution, c'est drone, qui aide les pompiers à cartographier les incendies. Je me demandais si votre application, elle prenait aussi en compte les données météorologiques.
Oui, tout à fait. Les données météo, c'est très important pour la plupart des opérations pompiers. Et du coup, on prend en compte la météo, le vent, la topographie aussi, parce que les feux vont se propager beaucoup plus sur les montagnes, des zones à forte pente.
Ça paraissait évident, mais comme on ne l'avait pas dit, j'avais envie de
savoir. Céline, évidemment, qui nous informe sur le temps qu'il fait tous les jours.
Ça
la touche. Sandra, Elisabeth, des questions ?
Votre solution, Anne-Sophie, est-ce qu'elle fonctionne, j'ai compris, pour les feux de forêt, pour les incendies de grande ampleur, un immeuble qui prend feu ?
On s'adresse vraiment à toutes les opérations pompiers. À partir du moment où les pompiers utilisent leur drone, ils vont pouvoir créer de la cartographie et des modèles 3D à partir de ces images. Et ensuite, on va créer des modules qui serviront spécifiquement pour chaque opération. Donc des modules feu de forêt, des modules inondation, tempête, feu de bâtiment. Voilà. Et du coup, ces modules permettront d'avoir des informations spécifiques à ces opérations-là.
Lancement au test, en tout cas au mois de mars. Et après, évidemment, vous allez au fur et à mesure agréger de nouvelles fonctionnalités.
Exactement. Pour le lancement test, ça sera principalement sur les modules feu de forêt et la cartographie. Et on ajoutera petit à petit des modules en fonction des besoins spécifiques de chaque caserne.
Sandra Legrand.
Moi, j'avais une question pour Move in the City.
Into the City.
Ça nécessite qu'on le répète. Comment vous gagnez votre vie? Comment vous allez développer votre entreprise pour faire du chiffre d'affaires? Parce que tout ça m'a l'air assez gratuit, les applis, c'est gratuit.
Oui, les applis. Oui, on est sur un modèle freemium, donc une application gratuite au départ. Très vite, on va s'appuyer sur les établissements qui vont devoir payer des postes, des systèmes de publicitaires également au niveau des annonceurs. Et puis, nous avons une solution d'IA qui nous permet de faire de la recommandation et de vendre des études ad hoc, à savoir que comme nous allons pouvoir analyser le déplacement des foules, nous pouvons avoir un établissement qui organise un happy hour et qui ça ne fonctionne pas, mais on va pouvoir le conseiller, lui dire que à telle heure, à tel endroit, les populations sont plus dans un autre quartier ou en tout cas, on va pouvoir
changer de stratégie.
Exactement. Donc c'est un élément important. Et puis à terme, on veut proposer aussi, des services payants pour les utilisateurs. Alors, l'application restera gratuite, mais l'objectif est juste de proposer des services additionnels, comme effectivement des entrées coupe-file, des verres gratuits, enfin, que sais-je encore.
La solution, elle existe aujourd'hui, elle peut être exportée. Est-ce que vous avez des concurrents qui font la même chose à l'étranger ?
Alors, pas vraiment de concurrents. Il existe des applications...
Donc demain, on pourra faire la même chose à New York, à Rome.
Tout à fait, c'est l'objectif, puisque...
Il faudra qu'elle soit traduite.
Elle est disponible en français et en anglais, d'ores et déjà. Bravo. Donc ça, c'était un élément important. Pourquoi ? Parce que aussi, notre axe de développement, ce sont les clientèles de passage. Moi, j'ai des amis aujourd'hui qui viennent par moment des États-Unis ou d'Angleterre et qui ne savent pas quoi faire quand ils sont à Paris. Avec l'application, elle est disponible en anglais. Vous géolocalisez et vous voyez ce qui se passe à côté. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est aussi pour les gens vraiment de passage. Vous partez en vacances, vous allez dans une ville que vous ne connaissez pas. On va vous recommander recommander également des lieux par rapport à vos habitudes de consommation.
Florent, dernière question. Vous avez travaillé sur votre domaine de compétences. Est-ce qu'on peut imaginer demain que dans ces déserts médicaux, on trouve des cabines pour faire la même chose, par exemple pour les ORL ?
Je vais répondre plus généralement. Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'informatique et d'intelligence artificielle en médecine, je pense qu'il faut voir les choses de la façon suivante. Vous savez, il y a une image que j'aime bien, c'est un petit peu de la façon du passage du volumen au codex. On a pu libérer une main et commencer à avoir de la critique dans les écritures. Je pense que c'est ça qu'il faut voir au niveau de l'intelligence artificielle. Ça ne tue pas le métier, ça ne change pas le métier, ça change la tâche. Ça veut dire que ça va être un outil très intéressant pour nous tous, pour gérer, et analyser l'énorme quantité de données qui va arriver. Donc oui, c'est une chance. Et oui, il faut qu'on le pousse en France et qu'on le développe en Europe pour avancer.
Merci à tous les trois d'avoir été avec nous et de nous avoir fait voyager en Corse aujourd'hui avec vous. Il est 13h48.
Europe 1.
Et on va presque garder un pied en Corse, car le plus célèbre des chapeaux, le bicorne de Napoléon, a été créé par l'entreprise qui va bien. C'est Poupard et Delaunay. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Ah, et cette entreprise, eh bien, elle a commencé son histoire, figurez-vous, en 1799. C'est Poupard et Delaunay, chapelier en fait depuis 1811. Mais comme je vous le disais, ça commence un tout petit peu avant. Bonjour Charlotte Langlois d'Alili.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Je parlais de 1799 parce que c'est une date importante. C'est lorsque Napoléon devient premier consul. Il crée une silhouette qu'on connaît tous désormais. Il se coiffe d'un petit chapeau, le bicorne.
Le petit chapeau, oui. Absolument. Et contrairement aux autres gardes de l'Empire après, il ne le met pas à l'horizontale, il le met droit.
Oui.
Voilà, il le met en face. Ouais. Et ça crée vraiment sa silhouette que tout le monde connaît.
C'est-à-dire que les pointes ne sont pas devant et derrière,
voilà,
mais sur les côtés.
Sur les côtés, absolument.
Et c'est Poupard.
C'est Poupard qui réalise ce chapeau.
Alors, qui est Poupard ? Il
est
chapelier à Paris.
Chapelier à Paris, installé sous les arcades du Palais Royal. Et Napoléon, lors de ses sorties dans les jardins du Palais Royal, découvre ce chapelier un peu par hasard. Et,
lieu de libertinage à l'époque.
Lieu de libertinage, absolument.
Et il n'a plus jamais, ou quasiment plus jamais, quitté ce bicorne.
Ensuite, Poupard lui fabrique entre 8 et 9 bicornes par an, avec différentes finitions selon les saisons et selon les circonstances, on va dire.
Qu'est-ce qui se passe une fois que l'histoire avec Napoléon se termine? Comment est-ce que la maison Poupard et Delaunay continue sa son
Alors,
existence?
Elle continue pas. Malheureusement, le chapelier disparaît. En 1811, oui. Monsieur Poupard, chapelier, s'associe avec Monsieur Delaunay. D'où Poupard et Delaunay, le nom ensuite du chapelier complet. Et puis par la suite, après le règne de Napoléon, on n'entend plus parler de Poupard et Delaunay. Donc aujourd'hui, il y a encore des bicornes, évidemment, qui ont appartenu à l'empereur et qui, à l'intérieur de la coiffe, portent le nom Poupard et Delaunay ou juste Poupard. Voilà.
Et vous décidez de redonner vie à l'entreprise, à la société, à la marque. 2013, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Alors, en 2013, mon mari et moi, on décide de refaire naître l'entreprise de sa famille, qui n'a rien à voir avec des chapeaux, qui n'a rien à voir avec Poupard, qui s'appelle Langlois et Jarget et qui fabriquait des sacs de haute fantaisie pour dames dans les années 1900-1905. Et puis, on fait des recherches. On se rend compte que même ne serait-ce que pour faire un prototype, ça nous demande financièrement trop d'efforts, ce qui donnera donc un produit trop cher qui rencontrera
pas
son public.
Que vous n'allez pas pouvoir commercialiser.
Exactement. Donc, à force de recherche, on tombe sur le chapelier Poupard et Delaunay. En fait, pour la petite anecdote, dans la famille de mon mari, son arrière-arrière-grand-mère s'appelait Poupard. C'est un nom assez commun en fait en France. Et puis sa grand-mère était modiste à Paris.
Donc
le moteur de recherche nous a sorti Poupard et Delaunay. Et on s'est rendu compte que la marque historique qui est quand même un peu une partie de l'histoire, l'histoire de France, je veux dire, existe, est tombée complètement en déshérence, je pense qu'on dit, et c'est bien dommage. Donc on décide en novembre 2013 de redéposer la marque.
Mais vous faisiez des chapeaux ? Vous avez dû apprendre ? Comment ça se passe ?
Alors, j'ai tout appris. Moi, je ne faisais pas du tout des chapeaux. Je faisais de la finance. Voilà, donc rien à
ce
voir.
Ce qui est important aussi pour gérer une société.
Ce qui est important, voilà. Après, j'ai fait une école de commerce juste après le bac, avec une couleur à la fois financière et une couleur création d'entreprise. Parce que moi, depuis que j'ai 9 ans, je veux créer mon entreprise.
Ouais. Et ben voilà, vous y êtes.
J'y suis. Et du coup, voilà, avec mon bagage de création et d'entrepreneur, on va dire, je décide de relancer la marque. Alors c'est un peu long parce qu'en fait à chaque fois que j'entreprends quelque chose avec la société, je tombe enceinte.
Bah écoutez.
Voilà, hasard du calendrier. Donc j'ai mis 9 mois pour faire les premiers chapeaux. Et puis ensuite quand même j'ai vraiment démarré une fois les deux bébés mis au monde, on va dire.
Et vos chapeaux, on les voit d'ailleurs, hein, ils sont actuellement sur
On les porte, on les aime beaucoup.
Sandra et Elisabeth, question de Sandra peut-être ?
Alors oui, en fait, la mode du chapeau, ça va, ça vient, comme dit la chanson, parce qu'à un moment on n'en mettait plus, maintenant on en remet. Pendant les mariages, on n'en met plus vraiment.
Ça se met plus trop.
Quand est-ce qu'on met des chapeaux et
comment ça tourne, non ?
En fait,
pas toujours.
Depuis,
si, Elisabeth en met souvent.
On peut en mettre tout le temps. Si on veut, moi je fais des chapeaux de ville, donc c'est des chapeaux qui se mettent tous les jours, la nuit, le matin, le soir, pas dans son lit, mais voilà. Mais le chapeau, depuis 2007, en fait, il est de nouveau sur les podiums de mode, de couture. Et puis il faut attendre quelques années à chaque fois que quelque chose vient sur les podiums pour le retrouver dans les magasins, en prêt-à-porter, voilà.
Donc, vous travaillez avec des chapeliers français, c'est important de le signaler.
Alors, je travaille avec des chapeliers français. Je travaille également avec d'autres entreprises françaises. Je travaille avec...
Pour la matière ?
Pour les matières. Même les étiquettes viennent de Saint-Étienne. Les boîtes à chapeaux viennent de Vendée. Mais mon principal, effectivement...
Elles sont magnifiques, vos boîtes à chapeaux.
Merci beaucoup. Je crois que d'ailleurs, on a le même bleu.
Ouais, c'est le bleu européen, effectivement. Regardez, c'est magnifique.
Et les chapeaux, eux... alors, je travaille avec 3-4 chapeliers français qui sont installés plutôt quart sud-ouest de la France. Je fais des bérets et des chapeaux et des capelines, mais principalement des chapeaux en
vous
feutre
avez
de
plusieurs,
laine.
Plusieurs formes, plusieurs couleurs.
Oui, alors là, je vous ai apporté 3 formes, une casquette. Je fais aussi des capelines et j'ai aussi des collections d'été en paille, en raffia. Donc là, après, les matières ne sont pas forcément made in France parce que ça dépend un petit peu de la matière, du chapeau. Mais j'essaye principalement de choisir des choses made in France.
Sandra ?
Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire du placement produit, entre guillemets, dans les magasins de prêt-à-porter ? Parce que moi, je vois souvent des bonnets, écharpes, il y en a partout.
Ouais.
Mais je trouve que si on mettait des chapeaux sur les mannequins, des chapeaux à disposition dans les magasins, ça donnerait des idées.
Avec plaisir.
Non, mais il faut inventer ça.
Bah écoutez, c'est lancé. L'idée est lancée, en tout cas, en direct sur Europe 1. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'histoire qui renaît de Poupard et de Launay. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Merci à Sandra Legrand, cofondatrice de Yapuka, d'avoir été avec nous, notre coach aujourd'hui, Elisabeth, Céline.
À demain, Raphaël.
À demain midi sur Europe 1.
À demain, c'était Raphaël Duchemin. C'était La France Bouge avec AXA Prévention, accompagnement des chefs d'entreprise, santé et sécurité des salariés. Retrouvez un dispositif de prévention gratuit sur le site axaprévention.fr. Et restez sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouverez Christophe Ondelat.